voulez me passer le beurre ?
Si je vous passe le beurre, vous me promettez de m'expliquer pourquoi cette conversation n'a pas été satisfaisante ?
Et bienvenue dans Un jeune chez Columbo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max.
Bonsoir.
Fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Comment ça va, Max ?
Ouais, impeccable. Et toi ?
Ça va alors cet épisode ? T'en as pensé quoi ?
Cet épisode, c'est l'armée et puis il y a un colonel et puis en fait le colonel il fait exploser un canon. Et puis voilà quoi, le canon il explose sur le doyen de l'entreprise de voilà. Bref, on s'ennuie. Ensuite, il y a les petits soldats, ils sont méchants et le colonel, il est méchant avec les petits soldats et Columbo, il arrive et après le colonel, il s'ennuie et on s'ennuie tous parce que l'épisode il est long. Et à la fin le cidre et voilà, et le méchant il va en prison. Donc pour les notes, qualité de l'intrigue, je vais mettre 1. Perfidio meurtrier, je vais mettre quel est le meurtrier ? Dynamique. Pour le reveal du coupable, je vais mettre 2. Et l'ambiance de l'épisode ? Oui.
Ok ! Bon c'est bon, alors on revient la semaine prochaine. Playback ! À la semaine prochaine !
Ciao, merci.
Ciao ! Et non, c'était une petite feinte, on est encore là.
On vous a bien eu, mais... mais c'est comme ça vous donne le là. Sur l'épisode. Sachez que ça a été réalisé sans doublage.
Allez, on démarre direct avec les questions de la semaine. On ne revient pas sur les épisodes précédents, c'est du passé, on n'y pense plus.
Voilà. Comme avec vos ex, c'est du passé, n'y pensez plus.
Tout à fait. Les bons conseils de Max.
Les conseils de Max.
Bon alors, première question. Est-ce que tu as déjà fait un petit séjour à l'armée ?
Je vais te laisser répondre à ma place.
Non, je suppose que non.
Et non.
Je suppose que cet épisode ne t'a pas particulièrement donné envie.
Cet épisode, il faisait pas partie de mes top priorités, quoi.
Est-ce que t'as fait ta journée d'appel, quand même ?
Obligatoire.
Eh oui.
C'est plus la journée d'appel, maintenant. Ça s'appelle la journée du citoyen, en fait.
Ah oui.
Mais oui, c'est
ça va, bonne expérience ?
Premier degré, ouais. Quoi ? Je vais vous raconter une anecdote.
Voilà, tu vois.
Mais tu sais que j'ai une anecdote. Putain, je retrouverai jamais cette photo, tu vas jamais me croire.
Vas-y.
Mec, c'est une folie. Ma journée d'appel.
Ouais.
Donc, je l'ai fait vers chez mes parents. Donc, à la base militaire où on était, parce que ça se fait en base militaire, en la gendarmerie, quoi. Il y avait la patrouille de France. Non, la garde française. Je sais pas, mais des mecs chauds de fou.
Ouais.
Tu vois ? Et du coup, on s'est dit, la journée d'appel, ça va être pété, on va rien faire. C'est pété et on fait rien.
C'était genre, ils avaient pas l'habitude d'être là.
Mais eux, c'est des mecs qui sont pas censés être là. Ils étaient en déplacement, en fait, et ils logeaient à cette caserne-là en temporaire. Genre, ils étaient là que pour une semaine, tu vois, ou un truc. C'était une escale, quoi, en gros. Donc, du coup, on a eu. De base, ils te font visiter les locaux, mais c'est pété, tu vois. C'est la gendarmerie, quoi, en fait. C'est pas vraiment une gendarmerie, mais c'est une caserne un peu plus stylée, quoi. Mais
ouais.
C'est un peu éclaté au sol. Et là, ils nous ont dit, je sais plus qu'est-ce que c'est, la garde royale, j'en sais rien, mais je sais plus c'est quoi le nom exact de ce truc-là, mais c'est un truc vraiment stylé de fou, tu vois.
Ouais.
Et là, on tombe sur un mec, un timbré, le cousin, il est fou complet. Il me dit, ouais, si vous voulez, si ça vous fait marrer, je peux tirer une balle dans un casque par balle. Dans un casque anti-émeute, pardon.
Ah ouais. Et toi, t'as fait ouais.
Mais nous, on était tous là. On s'est fait chier parce que c'était l'après-midi, ça, la matinée. On s'est fait chier à regarder des clips pour s'engager. Un truc qui intéresse 0,1% des gens, tu vois. Et là, on s'est dit, ouais, on est trop chaud et tout. Et là, il nous dit quoi ? Il nous dit, vas-y, enfile-le.
Non.
Et j'étais là, mais attends, il va pas nous tirer.
Non, il a pas fait ça.
Il va pas nous tirer dessus, là, quand même.
Ouais.
Et en fait, il s'est mis devant le mec et il a tiré une balle à blanc sur mon collègue.
Ah, une balle à blanc.
Mec, on se dit, mais... Et en fait, il lui a dit, vas-y, enfile le casque et tout pour voir ce que ça fait. Et en gros, il l'a fait en speed. En gros, il savait que le mec, il allait pas lui laisser tirer dessus.
Ouais.
Donc en fait, il avait prémédité son coup, à mon avis, depuis un moment.
Ah bah, il le fait à tout le monde, ça.
C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Mais vu qu'il y avait les mecs de la garde nationale, nous, on a cru que c'était... Enfin, je crois que c'est la garde nationale qui s'appelle. Peu importe. Ça apporte du crédit, tu sais. On s'est dit, c'est pas un plouc qui fait n'importe quoi, tu vois. C'est un vrai mec.
Ouais.
Il était stylé. Il avait un nombre de médaillons sur son truc. C'était une folie.
Ouais.
Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Et là, en fait, il a dit, bah, vas-y, regarde, teste-le si tu veux, tu vois, on voit comme ça, parce que le truc est très, très épais, la vitre.
Ouais.
La vitre est gigantesque. Et donc, il lui fait, ah, bah, regarde, baisse la vitre et tout, machin comme ça. Et genre, là, il dégaine une arme, pas, il tire, mais une folie, nous, on s'est tous chié dessus, on se commence à hurler et tout. Et
surtout que ça a dû faire un bruit d'enfer, quoi.
Ah, ça fait un bruit de fou, par contre. Ouais. Ça fait un bruit de fou. Mais c'était une petite arme, en fait, c'était un petit, je connais pas trop, mais un petit gun, tu vois, c'était un truc de démo, tu vois, ça se voyait. Après coup, on a vu que c'était un truc de démo, tu vois. Un boucan et tout. On s'est dit, mais il a buté notre pote. et du coup, j'ai gardé un super bon souvenir. Et après, il nous a montré un autre casque où il y avait une vraie balle dedans pour voir ce que ça fait une balle.
Ah,
en
fait,
un truc de plexiglas, sans te mentir, je sais pas combien ça fait ça, mais ça fait cette taille-là.
2 cm.
Ouais. Voilà, au moins 2 bons centimètres avec une balle plantée dedans et rien pour le mec. Genre, le mec, il a rien eu. Enfin, c'est un truc qui a vraiment servi en mission. Et on voit la balle qui est logée dedans avec, tu sais, le
bruit de verre.
Mais non, c'est pas du verre, du coup, c'est du plexi, mais tu sais, on voit
ça
l'impact,
ressort,
quoi. Ouais. Ça a creusé le truc, tu vois. Et voilà, du coup, ma journée d'appel, c'est le seul truc que je me souviens de la journée d'appel.
D'accord.
Parce que tout le reste, c'était à chier.
Bah, c'est cool.
C'était une folie. Je pense que ma journée d'appel a été un peu mieux que d'autres, mais franchement, je veux pas faire le mec, mais c'était trop cool.
Ouais, c'est cool. Moi, tu sais que dès que je pose une question et que ça sort une anecdote de toi, c'est parfait.
Mais j'ai l'impression que c'est mission accomplie. Tous les jours comme ça.
Très bien. Deuxième question, donc, est-ce que tu as déjà fait partie d'une parade ? Même si c'est pas militaire, genre pour le carnaval ou un truc comme ça, en groupe.
Non.
T'as jamais fait du twirling bâton ?
J'ai pas fait du twirling bâton, non. Si. Ah ouais, twirling ?
Ouais.
En anglais ? Ouais, parce que en fait, du coup, en français, ils ont pas traduit, mais ils ont traduit sans traduire. Et en français, c'est du turning bâton.
Ah ouais, moi j'ai toujours entendu twirling. Hein, parce qu'il y avait un club à côté de nous quand on faisait du handball quand on était jeune.
Je crois qu'il y a une gamine, une sœur d'un pote là qui faisait ça. Et,
okay.
Et je crois que c'était du turning bâton. Ou alors c'est qu'ils ne savaient pas le prononcer.
Exactement, c'est un peu comme les gens.
C'est sûr en fait.
Est-ce que tu as déjà entendu des gens dire « Ah, j'ai fait un double test. » Un double test.
Ouais.
Voilà. Bah, c'est pas un double test, c'est un table test. Pour les casinos.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Il y a plein de gens qui disent double test.
Ah, un double test. Ouais.
Bon, c'est un terme casinotier.
Ouais, un terme casinotier. Mais en gros, un test de table, en fait.
Voilà.
On regarde si tu sais travailler, quoi. C'est comme un test de conduite pour être conducteur ou je sais pas. Voilà, t'es un test de table.
Donc,
si
pas
bon.
De parade particulière.
Quoi. Non, pas de parade, mais j'ai pas trop fait de musique, moi.
T'as déjà manifesté ou pas ?
Ouais.
Ouais.
J'ai déjà fait les Gilets jaunes parce que c'était vraiment un moment à vivre.
Ouais.
C'était quelque chose qu'il fallait faire au moins une fois.
Ouais.
Et j'ai fait une fois une manifestive. Peut-être tu vois pas c'est quoi, mais.
Non.
Bah c'est en gros pour manifester contre souvent contre la répression envers les sound systems qui font de la techno.
Ah ok.
Et du coup les mecs ils chargent des gros camions avec des énormes caissons
et
ils déroulent dans les rues en balançant de la grosse techno. Du coup c'est marrant, c'est sympatoche.
Très bien.
Un bon moment à vivre. Et toi, manifestation ? Toi,
j'en ai fait 2-3 quand j'étais jeune.
Ouais. Tu seras CGT ou pas ?
Non, j'ai manifesté quand Le Pen il est passé au deuxième tour en...
Alors ça, je pense que j'étais même pas né. Ah si,
2002.
Ah bah 2002. J'étais tout juste né, ça faisait pas longtemps.
Et sinon, ouais, j'ai manifesté vite fait pour ACTA, oui, contre ACTA.
Ouais.
Et voilà. On avait tous les masques, tu sais.
Anonymous.
Ouais, exactement.
Ouais, bah oui. Le mouvement, ouais.
Voilà.
Et
donc,
super. Yannick n'est pas un Che Guevara.
Encore.
Pas résistant.
Allez, c'est parti pour cet épisode. Épisode 3 de la saison 4, Entre le crépuscule et l'aube. Première diffusion, le 27 octobre 1974. La réalisation, elle est pour Harvey Hart, qui réalise là son premier de 4 épisodes. Auteur, c'est Howard Berk.
Berk, sérieux.
son premier de 2 épisodes. On va voir si le deuxième, il est aussi Berk que le premier. Et la BO.
Mais non.
C'est pour personne, parce qu'il n'y a pas de musique dans cet épisode. À part le...
Ouais, il y a des musiques militaires, quoi.
Il
voilà,
n'y a que ça.
Donc, il n'y a pas de BO. Ben, ça ne m'étonne pas. Et ça reflète très bien la note de l'épisode.
Ouais. Allez, on démarre en trombe direct dans la préparation d'un meurtre. On voit un gars qui vide de la poudre à canon d'un obus et qui le remplace par de la pâte à modeler.
Je pense pas que ce soit de la pâte à modeler.
Non, c'est du C4. Et moi, je trouve que la scène, elle est cool, quand même. On démarre dans un couloir, caméra au point.
Si on enlève le fait qu'elle dure 57 minutes 30, c'était sympa. Parce qu'en fait, on a compris, quand il a mis la première bande, on avait compris. Il n'y a pas besoin de mettre les 53 autres. Tu vois.
Ouais. Mais ce qui est important dans cette scène...
Ouais. C'est le torchon ?
Non, ce qui est important, c'est de voir à quel point ça le fait transpirer.
Ah non, mais c'est une folie.
Ah ouais. transpire des lunettes, le mec. Hein.
Mais tu sais pourquoi ? Parce que c'est un mec qui est trop carré dans sa vie.
Ouais.
Toute sa vie. C'est un colonel. Tu vois, ouais. Je sais plus c'est quoi son grade, je crois que c'est colonel.
Ouais, colonel, ouais.
Il a toujours fait tout dans les clous. Là, ouais. Il va tuer quelqu'un. Ouais. Un meurtre de sang-froid.
Il sort
donc
des...
là, il se rend compte qu'il est en train de dépasser les bornes.
Ouais. C'est comme mais... s'il traversait hors des clous, quoi.
C'est... Imagine. Ouais. C'est comme si... Mais attends, alors là, je vais te dire un truc. Tu vas devenir fou. C'est comme si, pour aller plus vite, tu mettais ton régulateur à 91 alors que c'est 90 là.
Ouais, ça, c'est abusé.
Ça, c'est...
Non, mais là, tu vas trop loin, quoi.
Ok, pardon. Non, les gens qui font ça, remettez-vous en question, je veux dire.
Ouais. En tout cas, il rebouche l'obus. Il verse la poudre dans l'évier. Il est dans une cuisine, d'ailleurs, très modeste. Très terne.
Très, ouais, très... Comme ma vie. Comme ma vie après cet épisode. Terne, sans goût, fade.
Par contre, en haut, il a un genre de papier peint fleuri qui longe le plafond de très bon goût, quoi. Donc, il essuie les empreintes, il enfile sa veste et sa casquette qui laisse supposer qu'il est haut gradé, on l'a dit. Il est donc colonel.
Oui, j'ai un peu spoilé.
Et après, quand il sort de son appart, d'ailleurs, on voit l'extérieur qui est beaucoup plus charmant que l'intérieur avec du lierre sur les colonnes et des rosiers dans les pots. Donc apparemment, il aime bien les fleurs.
La botanique.
Mais il va le dire un peu plus tard.
Ah, merci à lui pour ça.
Il emporte l'obus avec lui. Par contre, ce qui est bien dans cet épisode, c'est que si on se passe la main à chaque fois qu'on change de scène, je vais parler jusqu'à la fin.
Bah, moi, c'est le but. Hein. Moi, j'ai déjà fait ma partie. Hein. J'ai fait le clown au début. Il n'y a pas besoin. Tu peux expliquer l'épisode dans la vraie forme maintenant.
Bon, ça va alors. Donc quoi, ouais, il emporte l'obus, il le replace dans une malle qui se trouve à l'autre bout d'une cour.
À l'autre bout de la planète.
Ouais.
À l'autre bout du stade d'Olivetum.
Exactement.
Voilà, mais en plus, j'allais dire, pour ceux qui auront la ref, tout le monde l'aura.
Oui.
Parce qu'il y a très peu de...
Ouais, là, c'est bon. Et dans cette cour, on voit justement en son centre un canon. Et une fois replacé dans la malle, il marche jusqu'à ce canon et enfonce un torchon à l'intérieur. J'ai noté que quand même, c'est sacrément risqué.
Oui, mais surtout qu'il...
C'est abusé, il est en plein milieu d'une cour, quoi.
Et puis il est en plein jour. Enfin, quasiment
peut-être,
en plein jour.
Peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire d'être à découvert.
Bah, ouais, bah oui. Certainement. Ils n'apprennent pas ça à l'armée.
T'as déjà été à découvert.
Mais comme dirait un très bon ami à moi, c'est à découvert qu'on découvre. C'est pas plus... C'est très représentatif.
C'est bien dit, c'est bien
et,
dit.
Il joue au jeu à gratter, si ça vous intéresse. Ça donne un contexte.
Il est autant à découvert que Lyle.
Ah ben, c'est ça.
D'ailleurs, je me demande comment il s'appelle en français, j'ai pas regardé.
Lille.
Il s'appelle Lyle. On l'appelle Lyle dans le...
Ouais, je sais pas. Moi, non, mais Lyle.
Lyle.
Il doit s'appeler comme ça.
Je sais pas.
Ouais, quoi que non.
Ils auraient dû mettre fois, Carl mais... ou un truc comme ça pour que ça suive à peu près le
Denis.
Truc.
Bon, on va dire Lyle.
Ouais, donc en tout cas, c'est super risqué, quoi. Le mec, enfin, je veux dire...
Mais surtout qu'il fait vraiment pas nuit.
Ouais.
Tu sais, il fait nuit noire. Ouais. Pas de lune.
Après, supposément, c'est tôt. On va le voir plus tard. Que,
oui.
Il est une certaine heure. Mais,
mais
bon,
il fait
n'importe
jour.
Qui sort comme ça, il le voit, c'est bon. Il est cramé.
Bah, oui. Et puis surtout qu'il n'est pas pressé pour y aller. Hein.
Ouais, il court pas, le mec.
Non. Il
n'a pas besoin de ça pour transpirer, le mec.
Ah, hein. Pas du tout. Mais d'ailleurs, heureusement, parce que je ne sais pas quel état il aurait été sinon. Mais même une fois qu'il est à côté du canon, une fois qu'il a fait son œuvre, il est resté planté là comme un personnage non jouable.
Eh ouais.
Il était.
Ouais, mais il a remarqué quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il a remarqué ? Attends, parce que, attends, c'est important.
Le cidre. Non, il a remarqué, moi au début, je crois que c'est une bonbonne de gaz.
Ouais.
C'est quoi ce délire ?
Ouais.
C'est quoi ? Non, mais tu bah, sais pas c'est quoi ? Tu peux pas savoir ce
non, mais moi je savais pas hein, la première fois que j'ai vu.
C'est quoi ce délire ?
Ouais.
Donc bon, du coup.
Ouais. Donc
il a fait son œuvre.
Ouais.
Et il a remarqué une bonbonne de cidre, du coup, qu'on apprendra que c'est du cidre bien plus tard.
Yes.
Accrochée à l'une des fenêtres du bâtiment qui entoure la cour.
Tout à fait.
Voilà.
Toujours en pleine transpi, hein, d'ailleurs.
Toujours, dégoulinant. Ouais, en même temps, ça doit porter chaud, c'est les vestes militaires.
Ah bah ouais.
Et sur ce,
nice.
Je fais ça avec ma bouche si jamais ça vous intéresse.
Combien tu prends de l'heure ?
Bah 4. Je mets pas d'unité.
4 quoi, on sait
pas. Ouais, je mets pas d'unité. Ça c'est un jeu très très fun de répondre avec des trucs qui n'ont pas de sens.
Ah bah je crois qu'on va faire ça tout l'épisode.
On n'a pas le choix parce qu'il faut meubler.
En plus, donc, le pire, c'est qu'ils vont croire. Tout le monde va croire qu'on déteste l'épisode alors que ça.
Alors qu'en vrai, on l'aime
pas
bien,
du tout. Il est super.
Fou.
Allons-y.
Donc les trompettes sonnent.
Yes.
Et tous les militaires se lèvent et un cadet, Jonathan Miller, amène son café au colonel qui est tranquillou bilou en peignoir.
Ouais.
Lyle, entre parenthèses le colonel, lui partage quelques mots pleins de sagesse.
Ouais.
C'est pas exactement ça.
Il lui dit, la géométrie, c'est la logique, et la logique est le champ de bataille de l'état de l'âge adulte.
Ok, donc, ça déchire, traduit en français, logique courant,
ça veut
être
dire,
logique, c'est être un bon adulte.
Ça veut dire, étudier la géométrie, c'est bien.
En gros, ramène le café mieux.
Ouais, ouais, voilà. Bâtard. Et surtout... Surtout nettoie tes chaussures. Parce
et,
que
et ah oui, par contre.
T'es affreux comme ça.
Tes pompes sont déplorables, mon ptio. Tu vas aller me faire un tour au Karcher.
En tout cas, moi, j'ai adoré ce brin de philosophie.
C'était impeccable.
Ouais, au top.
Il faut qu'il continue comme ça. Bah, moi, j'ai quand même noté que du coup, Jonathan Miller, c'est un peu son petit toutou.
Ouais, il est content d'être là, en tout cas.
Il a l'air d'être content, en vrai. Mm. C'est faux. Je pense qu'il est. Jonathan Miller, habille-toi en rouge dans le prochain épisode si tu as besoin d'aide. Si tu es détenu contre ton gré. Et donc à son bureau, on retrouve toujours Lyle qui demande à sa secrétaire de faire venir le capitaine Loomis. J'adore ce nom. J'ai, à chaque fois que j'entendais Loomis, je suis en mode Loomis.
Loomis. Loomis, c'est celui qui a inventé la technique Loomis.
Bah, je m'en doute pas.
C'est pour le dessin. C'est une façon de reproduire un visage. C'est-à-dire qu'il y a une technique, tu vois, tu fais un rond et tu fais
plein de ronds. Tu fais des trucs, tu fais des lignes comme ça pour.
Ouais. Okay. Non, encore une fois, on est dans la géométrie. Quoi. Et voilà, c'est ça. C'est la technique Loomis, très connue.
Ok, moi je connais pas, mais.
Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, et voilà.
Ah ouais, genre c'est une méthode pour faire ça.
C'est une méthode, il y en a plusieurs, et ça. Okay. Voilà.
Et bien en tout cas, le capitaine méthode Loomis, du coup, qui est occupé avec les préparatifs de la cérémonie d'aujourd'hui, qu'on sait pas ce que c'est, mais
ouais.
Il y a une cérémonie. Tant pis, on le fera venir plus tard, cher monsieur Loomis.
Ouais.
Et on apprend aussi qu'ils attendent un certain William Haynes, qui risque d'avoir du retard. Et donc dans la cour, on suit l'arrivée de ce monsieur Haynes, qui va jusqu'au bureau de Lyle, et qui a l'air furax.
Yes. Pour la petite anecdote, il arrive dans sa Ford Thunderbird.
Thunderbird.
Et on voit aussi qu'il a volé les lunettes de soleil de Dale Kingston.
Dans les lunettes qui font...
ça c'est Brimmer. Kingston, c'est le marchand d'art.
Ah oui, oui.
À un moment donné, il met les lunettes, je crois que c'est les mêmes. Et donc il est furax.
Il est très énervé et il entre dans le bureau en forçant le passage.
Yes.
Il saute les formalités conviviales et lui dit que cette académie militaire qu'il finance va devenir une école au plus vite.
Yes.
D'année en année, l'académie perd des membres et William pense que c'est plus trop à la mode de jouer aux soldats.
Ouais, apparemment ils sont actuellement à 20% de capacité.
Donc après ça, ils se chamaillent un petit peu, ils déclarent leur haine mutuelle l'un envers l'autre.
Ouais, à un moment donné, il y a Haynes qui dit « la guerre est finie ». Et bien sûr, là, il répond en disant « la guerre n'est jamais finie ».
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je dis ça.
Ah oui, à un moment donné, là, il lui dit « et tu crois en quoi, toi, William ? En ce monde de publicitaire en plastique dans lequel tu te fonds confortablement ? Ce sont les gens comme toi qui ont transformé ce pays en déchetterie morale. Bam, le mec. Ah, qu'est-ce qu'il y a,
il est... Oh, il est plein de paroles, lui.
Ah, franchement, il est quand même plein de répliques.
Ah, ouais, le violoniste, carrément. Ah, franchement, il a sorti un vrai banger.
Ouais. Et là, on apprend qu'ils ont fait leur service militaire ensemble dans cet établissement. Et il lui dit, tu étais un mauvais cadet, tu manques de caractère et au final, tu manquais de toutes les qualités qui rendaient ton grand-père grandiose. Et c'est encore le cas aujourd'hui.
Hop là, allez.
La froideur du
gars, j'adore. Direct dans l'incisive, là, bam.
Ouais, franchement, j'ai bien aimé cette intro au personnage, quoi.
Ah, il est, ouais. Ah, il est, par contre, il est froid. Hein.
Ouais, il est froid.
Il est froid. Il transpire beaucoup, donc il est très chaud.
Ouais.
Mais il est très froid.
Mais je trouve que c'est vachement pertinent ce que tu as dit sur le fait que, tu vois, il sort un peu des clous et donc ouais,
c'est le seul moment où il va stresser, c'est quand il fait un truc qui n'est pas légal.
Voilà. Et tout au long de l'épisode, on va voir qu'en fait, ce côté-là, il va ressortir de lui. Et franchement, le personnage est intéressant.
On ne pourra pas lui enlever.
Ouais. Alors, autant on fait des blagues et tout sur l'épisode parce que, effectivement, l'épisode, il est un peu longué.
Ouais.
Et voilà. On va voir avec les notes après,
parler,
mais le personnage est intéressant et j'aurais pas mal de choses à dire.
Le thème est cool. Enfin, le thème du tueur.
Ouais, carrément.
Son background.
Donc, il y a encore quelques mots d'amour entre eux et William lui dit « L'académie va fermer et tu peux rien y faire ». Et Lyle va dire deux mots à la secrétaire en faisant bien attention de laisser la porte ouverte lorsqu'il revient au bureau pour qu'elle entende. Et on va écouter ce qu'ils se disent pendant que la porte est ouverte.
Vous me rappelez ce que disait le général Jackson quand il voulait se débarrasser d'un des officiers de son état-major qu'il jugeait incompétent. Il disait « Voici un homme, messieurs, qui manque tellement d'esprit d'initiative qu'il est incapable de faire quoi que ce soit sans être conduit par la main, comme un enfant. »
Où voulez-vous en venir ? Vous croyez que je ne saurais pas me passer de vous ?
Vous ne seriez même pas capable de trouver seul le chemin des latrines, mon pauvre William.
Un malade ! Voilà ce que vous êtes. Vous prenez vraiment pour Dieu le Père.
Vous avez toujours été notre hôte d'honneur aux anniversaires, et cela depuis 7 ans. Mais j'estime que votre présence est aujourd'hui non seulement inutile, mais injurieuse. Vous ne sauriez même pas, sans mon aide, trouver l'emplacement de la parade.
Vous croyez que tout le monde a besoin de vous ?
Et bien sûr, je suppose que vous allez manifester le désir de présider la cérémonie.
J'en ai bien l'intention. Vous serez bientôt liquidé, colonel. Autant en finir maintenant.
Je ne discuterai pas, William. Faites ce qui vous plaira. Mais je préférerais que le capitaine Loomis préside.
Pas question.
Bonne technique, hein, pour qu'elle dise que c'était l'idée de William.
Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein.
Ouais. Alors déjà, je tiens à dire que le doubleur de Lyle, il est quand même très bon.
Ouais. Ouais, grave.
Il est fort. Il
a ce truc froid.
Ouais,
il a ce truc de très droit dans ses bottes. Il le joue très bien. Bravo. Merci à lui.
Allez, on part à la cérémonie. Fanfare et parade militaire. Tu veux nous le faire aussi, ça, ou pas? Non, ça va.
Non. La trompette, c'est facile à la bouche. Le reste...
Allez, l'obus est amené par les cadets qui arrivent sur la pelouse avec une Ford Bronco. Avec un rail doré pour les gus qu'il y a debout derrière.
Magnifique. J'adore. Ça faisait très succession de rois d'Angleterre. Je sais pas, ça aurait grave pu être une cérémonie comme ça.
Ouais. D'ailleurs, si tu veux une bonne bonnette pour ton micro, Max, ils en ont tous un sur leur chapeau. Je comprends jamais le genre de fantaisie loufoque qu'ils ont les militaires des fois. Quoi.
Ah, ça me régale. C'est vrai qu'ils ont toujours des ornements de fou.
Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Quoi.
Bah, puis il doit y avoir une raison, mais...
Parce qu'ils ont carrément des micros sur leur casque. Hein. C'est des micros, les trucs. On pourrait faire un podcast autour de, je te le dis.
Ah oui.
Et en tout cas, ils chargent l'obus dans le canon. William approche, sur le terrain vague d'Olive et Tom, encore. Parce que tu vois tout.
Ah ouais, là, c'est clair. Et moi, la passe. Il est tout seul, en plus c'est lugubre, il n'y a pas de musique, il n'y a rien.
Personne,
il est là, il marche, genre vraiment, on pourrait entendre ses traces de pas, genre.
Ouais.
C'est horrible.
Tu sais, il s'est pas dit, peut-être si je me rapproche dès le début, comme ça,
tu sais, pendant que les jeunes ils chargent, moi je reste derrière le canon.
Voilà.
Comme ça, je fais feu, voilà. Et j'explose. Et c'est fini,
il voulait que les gens le regardent marcher.
Et oui, mais c'est un peu le boss en fait.
Et donc, il approche du centre de la pelouse pour procéder à la détonation, sous les yeux de tout le monde, surtout de Lyle, qui est au loin là-bas.
Oui.
Il tire sur la petite cordelette. Et badaboum, dispersion de William sur la pelouse.
Home run.
Et parlons de lui, forcément. William Haynes, c'est Tom Simcox qui joue son rôle, né en 1937 et toujours vivant. Essentiellement un homme de série, il en a fait une chier, 8 épisodes de Gunsmoke, 13 de Code R, puis plein de trucs, K2000, Supercopter, Vega, La Conquête de l'Ouest, Drôle de Dame, L'Homme de Fer, etc. Il a joué dans Piranha, en 1972, aux côtés de William Smith, l'homme d'exception qui joue Ken Nichols dans Dites-le avec des fleurs. Tu te rappelles ? Mr. Worldwide ?
Mr. Worldwide !
Ouais.
Oui, je me souviens.
D'ailleurs, petite anecdote, William Smith prétend que Tom Simcox lui a sauvé la vie pendant le tournage de ce film-là, Piranha. Ils étaient dans la jungle et Mr. Worldwide, donc, s'est ouvert. Celui que, d'ailleurs, il fait des pompes mais à la verticale.
Ouais. Vois.
Il s'est ouvert l'avant-bras avec un couteau en essayant d'ouvrir une conserve contenant des saucisses de Vienne.
L'anecdote de fou.
Pendant le long trajet de bateau pour retrouver Caracas, Tom Simcox a maintenu la pression sur sa blessure. Donc, moi, je dis, si tu sauves la vie d'un homme d'exception, ça fait forcément de toi un homme d'exception.
Donc, merci à lui pour ça.
Merci, Tom.
Bravo à tous.
Il a étudié la méditation en Inde en même temps que les Beatles.
Okay.
John Lennon l'appelait le cowboy yankee.
Ok, c'est beau.
Voilà. Les anecdotes s'arrêtent là.
Ok. Du fun.
Voilà. Bon, le canon il a explosé. Quelques temps plus tard, il y a Columbo qui arrive.
J'ai cru que t'allais faire comme moi au début. Bon, le canon il a explosé. Ensuite, Columbo, les lieux.
Ouais. Il cherche partout. Donc, tout le monde suppose que c'est un accident. Syndrome du concierge avec Lyle qui demande à notre flic de se débarrasser de Columbo qui a rien à faire là. Je l'ai bien aimé celui-là. Ouais,
il était trop bien. Dites-lui de se barrer.
Mais déjà, il va le voir lui. Il lui fait oui. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Faut dégager les...
Il faut partir là.
Le périmètre là. Et après, il voit qu'il bouge pas, il commence à s'énerver et tout. Donc, les deux, ils se présentent très brièvement et Lyle s'en va. Et quand Columbo, il approche, on voit direct, j'ai noté ça, que dans les yeux de Lyle, qu'il est très content de la gueule de son adversaire. Quand
ouais.
Il voit le lieutenant arriver, il se dit, bon, tranquille.
Allez, hop, easy win.
Piece of cake. Et on a une belle contre-plongée sur lui, d'ailleurs, pour illustrer tout ça.
En même temps, il a l'air d'être très grand.
Ouais. Mais après,
massif,
à côté
il
de Columbo...
Il a l'air massif, ouais. Bon, après, Columbo... Tout le monde est très grand, mais...
Donc, Columbo, il trouve des morceaux de William... Non, de...
De torche... William
De torchon brûlé au sol et une roche avec un genre de fil dessus. Pendant qu'un flic informe son supérieur qu'il reçoive des appels de la ville d'à côté qui demande ce qui a fait ce bruit. Et on part dans l'église.
Oui, l'église de l'Académie, où là, il fait un discours tout à fait émouvant. C'est faux. En l'honneur de William, devant tous les cadets.
Oui.
Une fois que là, il a fini, Columbo ouais. le rejoint au dernier rang. Et Columbo engage la conversation malgré la prière en cours. Il veut lui demander ce qu'il y a dans un obus à blanc. Donc vous apprendrez qu'il y a du nitrate de sodium et de la laine de coton. Alors du coup, évidemment, Columbo, direct, il attaque son enquête. Il ne comprend pas d'où vient ce torchon qu'il a trouvé. Il lui demande si un torchon comme ça aurait pu être la cause de l'accident. Et là, il le confirme. Donc c'est bon, on a trouvé la cause. Du... on a trouvé la cause, maintenant il ne reste plus qu'à trouver le bonhomme.
Et j'ai noté que pendant qu'ils discutent, un à un, il y a les cadets qui sortent de l'église juste à côté d'eux, tu vois, dans les rangs.
Ouais.
Et je me suis amusé à les regarder un peu tous.
Il y en a qui sont...
Alors, il y en a un bon paquet qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder Columbo en passant.
Ouais.
Et il y en a même un qui regarde droit dans la caméra.
Normalement, c'est une no-no zone. Hein.
Ouais. Et il y en a un qui porte des lunettes teintées rouges.
J'ai pas fait gaffe.
Genre, le mec, c'est un militaire. Il est dans une église pour la mort d'un mec et il a des lunettes teintées rouges comme ça. Trop stylé, quoi. Je me suis dit, franchement, il est fortiche, le figurant.
Le tu penses que c'est défigurant? Tu penses qu'il n'y a pas vraiment un mec qui est mort et c'est une vraie cérémonie de...
Je sais pas.
C'est une blague.
Ça va, je vais quand même.
Après toute cette discussion, Columbo le remercie et va pour partir. Mais là, il le rattrape. Là, ça veut dire qu'il a planté la petite graine. Déjà, c'est déjà le début des emmerdes, si je puis dire. Et il demande à voir le torchon.
Ouais, il le renifle un peu.
Il le hume, quoi. Comme, ouais. Si c'était,
comme Carcini avec le vin.
Ouais, voilà.
Le
ouais.
bouchon.
Ou comme moi avec mes chaussettes.
Ah, c'est ça que tu faisais tout à l'heure ?
C'est ça, j'étais là. C'est pas vrai, je fais pas ça. Arrêtez. Peut-être. Non, je fais pas ça. Et il le renifle et il dit que c'est peut-être un torchon qui sert à nettoyer le canon parce que ça a l'odeur de je sais plus quoi, il dit.
Ouais, c'est imbibé de d'huile.
Quelque chose, ouais. Ouais.
Il va le dire plus tard, ouais. Springer.
Et donc, peut-être un oubli de la part du gars qui nettoie les canons. Mm-hmm. Très fort possible. Columbo suit Lyle pour qu'il puisse lui donner le nom du cadet à qui la corvée a été confiée.
Yes.
En arrivant au bureau, là, il félicite Miller pour son apparence et demande à sa secrétaire de faire venir le capitaine Loomis, de la méthode Loomis, pour dessiner le visage. Ils entrent dans le bureau et Columbo lui fait remarquer la peur qu'il a instaurée chez ses cadets. Et là, il lui dit que c'est pour leur bien.
Moi, genre, il a dit, mais il croyait que vous alliez le taper, là, lui.
Oui, c'est ça qu'il fait. Il fait exactement ça, en plus. Du coup, là, il cherche rapidement dans ses documents et annonce que c'est le cadet Springer qui devait nettoyer le canon et qu'il n'est pas surpris que ce soit lui. Mm-hmm. Le capitaine Loomis fait son entrée et Lyle lui ordonne de mener l'enquête quant à la bonbonne de cidre qui fermente à la fenêtre des dortoirs, juste sous son nez. Loomis se casse et Columbo fait de même. La secrétaire lui donne une petite carte des lieux pour qu'il puisse trouver Springer,
ouais.
Parce que c'est un dédale.
Ouais. Dédale. Un dédale, beau joli.
Notre bingo des mots pas communs
ouais.
commence à être pas mal. Hein.
Non, on est pas mal.
On a utilisé des mots qui me plaisent, moi. J'aime bien.
Les mecs sont fiers.
Non, mais moi, je trouve ça cool d'utiliser des mots qu'on n'entend pas trop souvent. C'est ouais. bien. Ça fait vivre un peu la langue.
Carrément. Bah ouais. Que... Avec tous les mots anglais qu'on utilise.
Voilà. Non mais, oh, allez, ça y est. Faut arrêter d'être un réac aussi. Non mais, on utilise des mots anglais parce que déjà, ça fait partie de notre culture. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On a vécu comme ça.
J'aime bien comme tu te rejustifies.
Ouais, je me rejustifie. Non mais, moi, pour moi, selon moi, c'est pas un enfer qu'on utilise des mots anglais. Juste, on le sait. Ouais. Là, c'est pas genre, on est en mode, mais non...
Ouais. J'ai vu quelqu'un sur Facebook nous dire, parce que le sous-titre de notre podcast, que j'ai mis à un moment donné, c'est un clash des générations, je sais pas quoi.
Ouais.
Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu pour me dire, on dit pas clash, on dit conflit, ok? Et cette personne, ouais. elle est restée sur ce poste pendant 5 jours à poster des trucs où il y a écrit arrêtez de flinguer la langue française, tout ça.
Mince. C'est dommage parce que je pense que on a des choses à apprendre des autres. Il y a des mots qui sont juste mieux dans une langue et qu'il y a des mots à nous qui sont mieux dans
ouais.
notre langue. Les Anglais utilisent attaché case. Tu vois
ouais.
Et c'est français.
C'est vrai.
Pas mal. Hein
bah ouais.
Français. Donc bon, voilà. Il y a plein de mots français qui sont utilisés par les Anglais.
Ouais.
Et je pense qu'on a le droit de leur.
Oui, oui. Après, je comprends ce qu'ils veulent dire. Hein,
je comprends
souvent,
aussi. Mais
parce que c'est vrai que des fois, il y a une nuance entre ce qu'on dit en anglais et en français
que nous on perçoit.
Ou que nous on perçoit.
Mais,
mais des fois, on en fait trop.
On force.
J'avoue que des fois, on en fait trop.
Mais parce que, moi, après, c'est mon avis perso, j'aime l'anglais, c'est une très belle langue. Et en plus, on regarde en anglais.
Ouais.
Donc, on est un peu influencé par le fait que ce qu'on a entendu, on l'a d'abord entendu en anglais.
Ouais.
Donc, on va le ressortir un peu traduit vers l'anglais. Enfin, quoi, c'est compliqué, tu vois.
Ouais. Donc voilà, c'est notre troisième justification sur ce thème-là.
À la semaine prochaine pour la quatrième.
J'espère que vous n'en avez pas marre. Quoi.
Non, mais voilà. Mais sachez que on a un code promo pour... si vous voulez apprendre l'anglais, vous
pouvez... comment ça s'appelle?
Cambly.
Pour Cambly, ouais.
Moi, j'étais Cambly. Si tu veux en ce moment.
Ah ouais, si tu veux parler comme à... C'est Cambridge, non? Oxford, si vous parlez l'anglais. Bon, bref.
Ouais, je sais plus, mais...
Sans balèque.
Voilà. Anyway.
Parlons vite fait du capitaine de la méthode Loomis.
Ah, capitaine méthode Loomis.
Ouais, il est joué par Burr Debenning, né en 1936, mort en 2003. Surtout connu pour son rôle dans Le monstre qui vient de l'espace, en 1977. En vrai, si on traduit littéralement le titre original, le film aurait dû s'appeler L'incroyable homme qui fond. Ça t'inspire, L'incroyable homme qui fond ?
Ben...
C'est l'histoire d'un astronaute qui revient d'une mission dans l'espace, mais dans la forme d'une masse gélatineuse meurtrière.
Mais pourquoi on ne sort plus des films comme ça ? Pourquoi plus personne se dit « Putain, mais ça, c'est
banger ! » Il y a quand même l'occasion de les voir encore, ces films.
Non, mais ouais, ils existent encore, tu vois, mais...
Ouais, mais c'est parce que...
Déjà, il y en a, c'est probablement des lots médias. Genre, c'est probablement des trucs qu'on ne reverra jamais.
Ouais.
Mais
c'est vrai qu'il y a des idées folles, quoi.
Non, mais surtout que le mec s'est dit « Putain, mais ça, c'est sûr, ça va buzzer. »
Ouais.
Puis, je sais pas, la valeur ajoutée d'un homme gélatine, enfin, je... Ça aurait pu être un extraterrestre lambda, tu vois, pour un homme gélatine.
Bah, il revient et il fond, quoi.
Mais tu m'as convaincu.
Mais tu vois, j'ai vu la bande-annonce et ça a pas l'air bon, hein.
Ouais.
Mais quand même, la masse gélatineuse, elle fait flipper.
Elle a l'air gélatineuse un peu.
C'est franchement, ça fait flipper.
Tu penses qu'elle fait plutôt spritch ou blob blob?
Ça fait.
Ok. Mais je pense que je vais pas regarder. Du coup, j'aime pas trop ce genre de slime.
Ah, je sais, c'est le truc. T'aimes pas la crème sur les visages, tout ça.
Ah, tu sais que. C'est ma hantise. On arrive en été, ça veut dire que je risque de prendre des coups solaires. De toute façon, c'est une situation perdant-perdant pour moi. Parce que c'est soit je mets de la crème solaire et ça me débecte, mais au moins j'aurai ma peau qui est sauvée. Mm. Soit j'y vais sans crème solaire et il va falloir que je mette de la Biafine. Donc,
voilà. Donc tu sais quoi faire.
Donc,
pour pas souffrir quand même, il y a une méthode qui est mieux que l'autre.
C'est vrai, mais je souffre quand même. J'aime pas ça.
Ouais, mais en tout cas, si ça te dit, voilà.
Ouais, l'homme gélatine, ouais. Bah, peut-être que lui, ils font pas. Bah, si, du coup. Peut-être que lui, il a pas ça de Biafine, mais lui, il font encore plus que moi, parce qu'il est en gélatine. C'est un bonbon.
Alors, et sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué dans Freddy 5, L'enfant du cauchemar, en 1989, et un épisode par-ci, par-là de toutes les séries qui existent. Voilà.
Dont Arabesque?
Je l'ai pas noté, mais probablement.
Non, tu l'as pas noté, c'est qu'il y a pas.
Ouais,
l'aurais noté, je pense.
Bon, en tout cas, le summum de sa carrière était, bien sûr.
L'homme gélatine.
Colombo, ouais. Ah, là où l'autre à voir.
C'est quoi en bol de la gélatine?
En tout cas, Colombo, il sort du bureau de Lyle. Les flics annoncent qu'ils vont quitter les lieux avec les effets personnels de la victime, quelques vêtements et un plan qui semble présenter des vestiaires ou un gymnase ou quelque chose de cet ordre. Colombo remarque que les pages sont numérotées et qu'il manque deux plans. Il y a genre la page 1 sur 3, il manque le reste. Et il part retrouver Springer. Alors celui-ci reconnaît directement le torchon et il assure qu'il n'a pas fait d'erreur. Colombo pose des questions quant à sa relation avec le colonel et il dit qu'ils ont pas mal de problèmes, qu'il se fait souvent réprimander. Colombo demande ce qu'il a fait pour être de corvée de nettoyage de canon et Springer dit que c'est censé être un honneur. Donc là déjà ça tourne dans la tête de Colombo. Ouais. Pourquoi il fait que se faire réprimander et après on lui donne une tâche qui est apparemment...
Un honneur.
Ouais. Springer réitère qu'il n'a pas laissé de torchon dans le canon. Et là à ce moment-là il y a quelqu'un qui vient chercher Colombo parce qu'il est invité...
Au repas.
Par le colonel à manger avec lui. Et là, on a un petit instant filler où il demande à des soldats qui courent et qui n'ont pas le droit de répondre.
Mais c'est ouf. C'est ouf. Mais il y en a un qui répond quand même.
Ouais. Ouais.
Donc,
mais
merci à lui.
Est-ce que tu as vu comment ils courent, les mecs, ou quoi? Comme des pingouins. Non, il est tout droit comme ça.
Ah, mais oui. Ouais. Mais c'est leurs jambes, moi, qui...
Ouais.
Leurs jambes, elles sont...
Ouais, les jambes un peu flappy et les bras tout raides.
Les bras.
Et on dirait qu'ils ont plus de
claquer.
Mais pourquoi ils font ça, quoi? J'ai pas compris pourquoi ils font ça.
Ils sont punis.
Non, mais ça, c'est pas possible.
Non, il y a un truc, mais je sais pas c'est quoi. Ouais, peut-être si à l'époque, c'était la formation comme ça.
Écoute, s'il y a quelqu'un qui a fait l'armée et qui reconnaît les pingouins qui courent, là,
dites-nous
tout.
Dites-nous tout. On veut tout savoir.
Donc, Colombo part à la cantine de l'académie.
On se retrouve dans la salle à manger de Poudlard.
Ok.
Littéralement.
Ah ouais?
T'as pas trouvé? 4 rangées de tables
ouais.
Avec des mecs de côté de table, genre les maisons, et lui qui est en haut sur une estrade avec sa table tout seul, genre comme si c'était Ganondorf. C'est pas le même univers, mais on se comprend. C'est le boss final, non? Ouais. Il est là-haut et il a ses deux ploucos qui lui sortent de...
Bah ouais, ils sont beaux les ploucos.
Ah ouais, pour moi, c'était vraiment... La cantine, c'était vraiment Poudlard.
Donc tu penses que c'est une référence à Harry Potter?
Non, je pense pas que c'est une référence, mais...
Donc il est à la cantine, le Columbo. Il est attendu par Lyle, à la table en question. Et d'ailleurs, Columbo, là, il remarque des cadets qui mangent bizarrement, en levant leur fourchette devant eux, avant d'enfourner la nourriture. Et il demande qu'est-ce qui se passe, et on lui explique qu'ils doivent manger comme ça pendant leur première année de service. Donc il court chelou, il mange chelou. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus personne qui veut venir dans son académie de merde. Oui, alors là, il demande si la conversation a été satisfaisante, la conversation avec Springer, en l'occurrence, et Columbo répond que non, sans donner d'autres explications.
Là, j'adorais.
Ouais.
Franchement, c'était un kiff.
Ouais, c'est un bon moment.
C'est un kiff.
Columbo lui demande pourquoi Springer a été assigné au nettoyage du canon alors que c'est un peu un délinquant. Il dit que pour recadrer quelqu'un qui a du caractère, parfois, c'est la récompense qui marche le mieux. Il lui demande ensuite si c'est bien lui qui lui a assigné la tâche, et il confirme. Et Columbo lui demande pourquoi, ce matin-là, il s'en souvenait plus et qu'il devait aller jusqu'à son bureau pour aller trouver l'info. Bonne question, non?
Pas mal. Si tu sais que c'est lui, le bouffon, que tu l'as mis là-bas...
Bah oui, c'est lui qui l'a assigné.
C'est lui, quoi.
Mmh. Ça semble bizarre pour un gars comme lui qui sait plus, quoi.
Ouais.
Et ça, j'aime bien ce moment-là parce qu'il fait... Ah oui, je me souviens maintenant. Je peux répondre à cette question, tu vois. Genre
l'illumination d'un
coup. Ouais. Et il répond que ses assignations durent un certain temps, qu'il lui a donné il y a longtemps, et il aurait pu être remplacé par quelqu'un d'autre.
Entre-temps, ouais.
Ouais. Et là, il lui demande alors pourquoi la conversation avec Springer n'a pas été satisfaisante, en le menaçant de ne pas donner le beurre s'il ne lui répond pas, parce que c'est la troisième fois qu'il lui demande.
Si je vous donne le beurre, vous allez me dire.
Ouais. Parce qu'en plus, c'est un jeu, il lui sourit un peu quand tu lui dis ça. Ils savent déjà un peu ce qui se passe.
Ouais, ouais. Il a un petit regard.
À ce moment-là, il dit qu'il a l'impression que Springer lui ment. Et Kyle, il est plutôt satisfait de l'information, quoi. Il lui demande s'il a nié avoir laissé le torchon dans le canon. Et Columbo acquiesce. Mais il lui dit, mais c'est pas pour ça que je pense qu'il ment. C'est pas de ça. Et il lui dit, je pense qu'il retient de l'information. Et là, il lui étale les faits et démontre que tout temps a pensé que Springer est fautif. Mais Columbo le croit. Parce qu'il a identifié le torchon si rapidement. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas mal.
Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien vu, même. Oui. J'aime beaucoup cet indice. S'il était coupable, il aurait fait semblant de ne pas savoir.
Ah non, c'est quoi, le torchon?
Ouais.
Il a dit, bah oui, je n'ai droit avec ça.
Ouais. Sauf si c'est un psychopathe. Si c'est un psychopathe, il aurait fait ça.
Il aurait fait, oui, c'est vrai. Ouais. Mais t'en connais beaucoup?
Ou un amnésique.
Ou
bah, c'est lui, il se rappelle plus que c'est lui qui a fait ça.
Un amnésique, quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est peut-être ça.
Mais d'ailleurs, c'est la solution.
Ouais.
Moi, ça aurait été mon axe de défense, perso. J'aurais dit ça à monsieur le juge. Voilà.
Je pense que c'est un psychopathe
amnésique.
En tout cas, Lyle, il le pense coupable et annonce qu'il sera sévèrement puni. Loomis s'approche de la table et annonce qu'il n'a pas trouvé les coupables de la détention de Cidre. Et Lyle s'énerve grave. Il prend congé, mais Columbo a encore une question. Il le suit. Après avoir mis une tranche ou deux de pain dans sa poche.
Parce que c'est vraiment un putain d'SDF. Non mais c'est la vérité, ce mec, il a tout le temps faim, il a tout le temps sommeil, il a tout le temps l'air de s'être réveillé à l'instant.
Ouais.
C'est ouf.
Ouais, non, c'est ça.
C'est Columbo, quoi.
C'est Columbo.
Merci à lui.
Et il le suit, et en route, il lui demande pourquoi il n'a pas activé le canon lui-même aujourd'hui, alors qu'apparemment c'est toujours son rôle. Lui, il le fait 3 fois par an. Par contre, le canon, il est utilisé tous les jours, mais par d'autres officiers. Et donc, Columbo lui dit que si le torchon a été foutu dans le canon délibérément, c'est que quelqu'un essayait de le tuer, lui, et non pas William.
Ains.
Là, il trouve ça ridicule, et avant qu'il se casse, Columbo demande à Lyle s'il peut rester la nuit à l'académie, dans le dortoir des cadets. Et là, il accepte.
Grosse erreur.
Alors, j'ai noté que j'aime beaucoup toute cette interaction. Au début, Columbo, il le rend fou en lui disant pas pourquoi la conversation avec Springer n'a pas été satisfaisante. Et là, tu vois, tout d'un coup, il commence à transpirer un peu, tu vois. Il n'a pas l'habitude que les choses sortent de son contrôle, quoi. Puis en tant que militaire, il se reprend, mais tu vois qu'il lutte, tu sais, à l'intérieur, quoi. Et je trouve que ce que dégage Lyle est assez excellent. Son comportement raconte plein de trucs, quoi. Il est fragile, mais il se cache sous cet extérieur militaire. Mais devant Columbo, c'est très visible. Et Columbo, il pousse tous les boutons qui lui sont disponibles pour le faire craquer, quoi.
Il va enfoncer.
Et là, c'est le début de
la démontada.
Ouais, c'est ça. Allez, on va parler de lui maintenant. Colonel Lyle Rumford, joué par Patrick McGowan. Né en 1928, mort en 2009, c'est celui qui a joué le plus de fois le rôle de tueur Columbo devant Robert Culp et Jack Cassidy. C'est la première de 4 fois.
On va le revoir, du coup.
Yes.
C'est bien, ça ne me dérange pas, je pense.
Il va également réaliser 5 épisodes dans le futur.
Ah oui, lui, c'est l'homme à plusieurs casquettes.
Moi, ouais, clairement.
C'est Super Mario.
Et parlons des films dans lesquels il a joué. Braveheart, en 1995, avec Mel Gibson et Sophie Marceau. Le droit de tuer, en 1996, qui est un très bon film au casting stupéfiant. Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, rien que ça. Et dans le plus ancien, on a Two Living, One Dead, en 1961. Accusé, levez-vous, en 1962. Le justicier aux deux visages, en 1963. Mary Stuart, Reine d'Écosse, en 1971, avec Vanessa Redgrave. L'évadé d'Alcatraz, en 1979, avec Clint Eastwood. Il a refusé le rôle de Gandalf dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux.
Waouh. C'est quand tu peux mettre ça sur ton CV,
ouais.
C'est que t'as une paire de testiboules qui dépasse du calbar, quoi.
T'es un boss.
Ah ouais, c'est clair. Refuser Gandalf. Mais pourquoi il a fait refuser, d'ailleurs?
Il a même refusé de jouer James Bond. Dans Vivre et laisser mourir.
Ah ok, ok. Donc le mec, c'est ça y est, quoi. Il est établi. Mais il sait que dans tous les cas...
Mais par contre, Lyle Rumford, là, ça se refuse pas.
Direct, un petit épisode en plus où on bouge pas de clé dans les cons. Hein.
Et aussi dans James Bond contre Dr. No aussi, il a refusé. Il a prêté sa voix dans un épisode de la saison 12 des Simpsons. Il a été la vedette de la série anglaise Le Prisonnier. Il en a même réalisé quelques épisodes. Dans cette série, il incarne un agent secret, numéro 6. Et apparemment, le mystère plane quant à l'identité du numéro 1 dans cette série, tu vois.
Okay.
Et dans le dernier épisode, il donne pas la réponse. Et dès lors, McGowan est détesté par l'Angleterre entière. Jusqu'au point où il s'est dit que ce serait une bonne idée qu'il aille habiter à Hollywood.
Ouais. Et il s'est même pas dit qu'il allait faire un spin-off pour contenter les fans.
Bah non, il a dit...
Mais c'est bien, ça fait buzzer. Moi, franchement, je suis pour.
Ouais, moi aussi.
Des genres de conneries.
Carrément. Bah, surtout quand tu harcèles quelqu'un parce que t'as pas eu ce que tu voulais dans une série, c'est que déjà, t'es un con, quoi.
Pas du tout, c'est normal.
Ouais, tu trouves ça normal. Et il était aussi à la tête d'affiche de la série Destination Danger. Et pour la petite anecdote, en 77, après le premier run de Columbo, McGowan a été considéré pour le rôle de Columbo lui-même. Mais étant très ami avec Peter Falk, il a refusé. Ce mec, il refuse. Je le respecte tellement déjà.
Bah oui, ce mec, c'est un boss. Attends, comment il a refusé autant de rôles?
Et dernier fait, en 1975, il est vainqueur d'un Primetime Emmy Award pour sa performance dans cet épisode-là.
Ah oui?
Ouais.
Ok. Bah, je suis pas sûr de celui-là, par contre. Ouais. Après, si. C'est
on y viendra, on en parlera à la fin pour la performance.
Pour la performance, ouais. Du coup.
Columbo, il s'entretient avec le capitaine Loomis à ce moment-là, à propos de cette histoire de cidre. Loomis lui explique qu'il laisse fermenter ça toute la nuit à l'air libre. Et d'ailleurs, pendant qu'il passe dans le couloir des dortoirs, on voit un cadet qui fait des pompes sur le côté et qui les fait très très mal.
Et oui, c'est pas un vrai cadet.
En fait, c'est des figurants qui s'amusent à côté.
Bah oui, c'est sûr.
Ils se sont donné un défi, vas-y, fais une connerie devant la caméra. Il informe ensuite Columbo que Springer a été puni pour son laxisme vis-à-vis du canon. Un cadet lui montre ensuite son petit lit superposé qu'il va utiliser cette nuit. Et avant qu'il ne parte, Columbo lui demande des infos sur le nouveau gymnase. Le cadet semble surpris et dit que le gymnase actuel est assez récent et qu'un nouveau n'est pas nécessaire. Et Columbo, il reste seul dans sa piole avec son plan et avec son pain,
avec son
suppose.
Son pain qui la chourave. En pleine nuit, Columbo se réveille et va faire un petit tour dans une cabine téléphonique.
En Marcel.
En Marcel, la classe à Dallas. Il appelle l'officier Corso pour lui demander pourquoi les gens de Westlake se sont plaints du bruit du canon alors qu'il tire avec tous les jours. Corso répond que c'est la première fois qu'il explose. Columbo reste intrigué. Jusque-là, normalement, c'est normal, c'est logique.
T'en penses quoi de ça? Parce que qu'il explose ou qu'il explose pas, la poudre à canon qu'il y a dedans ne va pas faire une plus grosse détonation parce qu'il explose, non? Je suppose que la force...
Ah, le projectile lui fait quelque chose, peut-être? Non. Non, ça doit être... Ça doit
parce que la poudre à canon, elle pète d'un coup, quoi qu'il arrive.
Ouais, quoi qu'il, ça pète.
Donc il a raison, Columbo, quoi.
Ouais. Mais c'est réexpliqué, ça, plus tard?
Ouais. En tout cas, c'est un indice.
Ouais.
Parce que tu sais, il y a les gens de Westlake qui appellent, donc la ville d'à côté, pour dire c'est quoi cette détonation, alors que le canon, il part
tous les jours.
Donc il a raison, Columbo. Pourquoi les mecs, ils appellent pour dire que c'est plus fort que d'habitude?
Ouais, à cause du C4.
Ouais, exact.
Puis le jour se lève, et Columbo se fait réveiller brutalement. Et part à la salle de bain commune. Ouais. Il demande à un cadet s'il a des chaussettes propres. Mais pas de chance, il n'en a pas. Columbo lui demande pourquoi il a un anneau comme pendentif. Il explique que ceux qui ont une copine dans l'école de filles d'à côté portent leur anneau autour de leur cou.
C'est mignon.
Monsieur Trump.
Il y en a plein qui l'ont en plus. Après, quand tu regardes, il y en a plein qui...
Que des charreaux. Le cadet se casse et Columbo remarque des traces de poudre noire sur le lavabo qui vient d'une bouche d'aération au-dessus de sa tête.
Ouais.
À
ce moment-là, je comprenais, enfin, la première fois que je l'ai vu, quoi. Je ne comprenais pas ce que c'était, ce truc. Au début, je me suis dit, mais c'est quand il a versé dans l'évier la poudre à canon dedans, ça a coulé. En fait, lui, il est au-dessus, ça a coulé dans le truc, je ne comprenais pas. Mais ça va être expliqué plus tard.
On en reparlera.
Tout à fait. On fait que dire ça, tu sais. Oui, j'espère qu'on va faire un putain de pavé à la fin.
Parce que si ça se trouve, on n'en reparlera pas et vous n'aurez jamais la réponse à vos questions. Comme Lyle, qui a dû demander 8 fois à Colombo.
Bon, en même temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui attendent absolument les réponses de ce qui s'est passé dans leur épisode.
Mais non. Et Colombo va voir Lyle, qui conduit les exercices militaires. Il a demandé à un officier spécialiste en balistique de checker le canon.
Ouais.
Sur les débris de canon, ils ont retrouvé des résidus de C4. Et ça, ça n'a rien à faire là.
Yes.
C'est donc bel et bien un meurtre.
Ouais, et pendant qu'il raconte tout ça, on a Lyle qui regarde tout autour de lui.
C'est une vigie.
Ouais. Il semble un peu en détresse. Il n'arrive pas à poser son regard. Il ne sait plus quoi faire.
Il est
transpirant encore.
Évidemment. Il est abattu.
Chaud de barre.
Il est chaud. Il est chaud tout court. Là, il semble d'accord et lui dit de continuer l'enquête. Colombo lui demande s'il a des chaussettes propres. Classique. Voilà, la petite chaussette de Colombo.
Ensuite, là, il va voir Springer, qui est en pleine corvée de nettoyage de la cour avec une brosse à dents. Classique.
Ça, c'est beau, ça. Mais est-ce que tu penses qu'il faisait vraiment ça? Moi, je pense que oui.
Ouais, je pense.
Ça, c'est vraiment un travail de con. Ça, j'aime bien ça, tu vois. Non, mais ça, je trouve que c'est une punition qui a vraiment... Je trouve que ça a du sens, en fait.
Je crois que même il dit que ça fait 2 jours qu'il est là, quoi. En train de faire ça.
Je le vois 2 jours non-stop. C'est pas ça fait 2 jours, genre 2 après-midi qu'il fait ça. 2 jours, de 48 heures qu'il est. Et il a fait une dalle.
Et on va écouter un petit clip.
Allez, on se met
de ce qu'ils se disent. Et surtout de ce que là, il dit.
Vous avez causé avec le lieutenant Colombo ?
Oui, mon colonel.
Qu'est-ce que vous pensez de lui ?
Je n'ai pas d'opinion, mon colonel.
Il n'est pas satisfait de vos explications. La situation est un peu plus compliquée que je ne pouvais m'y attendre. En fait, il existe certaines possibilités que vous soyez inculpé de meurtre. Alors voici. Nous avons eu des différends à plusieurs reprises, mais je crois que vous feriez un bon soldat. En conséquence, je vous assure que vous pourrez compter sur moi et sur l'académie pour vous défendre.
Donc, bel enfoiré, le mec, quand même. Il veut juste lui faire péter un plomb, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, bah, il s'échappe, quoi. Quand là, il s'en va, Springer, il se casse en courant. Et dans le bureau, Colombo fouille les documents tout en discutant avec la secrétaire, qui lui dit qu'elle connaissait très peu la victime, qu'il était très rarement sur place. Et on va vite voir que Colombo, il saoule pas que les tueurs.
Il saoule tout le monde. Même moi.
Une conversation de 3 minutes et elle en peut plus, quoi.
C'est vrai.
Il trouve ensuite un papier stipulant que Springer a été chopé 6 fois alors qu'il s'échappait de l'académie pour rejoindre sa copine. Il demande ensuite à la secrétaire d'où venait le désaccord entre Lyle et William, si c'était bien à cause du manque d'inscription à l'académie. Et la secrétaire dit ne pas savoir, mais que William était très désagréable et que c'est lui qui a provoqué. Elle dit que Lyle voulait que Loomis préside la cérémonie et c'est William qui a insisté pour le faire lui-même. Donc le plan de Lyle a très bien marché.
C'est ça.
Et on va parler de Miss Brady, qui est jouée par Madeleine Sherwood, née dans la forêt.
C'est Robin des Bois.
Elle est née en 1922, morte en 2016. Elle a joué dans La chatte sur un toit brûlant en 1958 avec Elizabeth Taylor et Paul Newman. L'enfant du diable en 1980 aux côtés de Trish Van Dever qui jouera une tueuse dans Columbo un peu plus tard. Encore avec Paul Newman, elle joue dans Deux oiseaux de jeunesse en 1962. Elle a joué dans 81 épisodes de la série The Flying Nun, donc la nonne volante.
La nonne volante.
Je sais absolument pas ce que c'est, mais bon.
C'est une nonne-venie.
Non-vni. Ouais.
Tu pourras couper ça. Du coup, tu laisses. Parce que c'est drôle.
Forcément. Puis voilà, plein d'autres séries éparses. Elle était très engagée politiquement, travaillant avec Martin Luther King pour les droits civils et l'égalité raciale.
Waouh.
Elle a été arrêtée lors d'une marche pour la liberté, s'est retrouvée en tôle et est devenue la première femme blanche à être représentée par un avocat noir.
Oh, donc elle fait des vrais manifs, par contre.
Ouais, elle fait
nous, pas c'est pas des, ouais, nous, on n'est pas des ploucos à faire de la manif ouais, CGT là, pour gagner 1 euro de plus.
Ouais, c'est ça.
Voilà, elle travaille pour les vrais droits. Ah, merci à elle.
Respect à elle.
Ouais, big.
Sa voix en français est absolument affreuse.
Ah, merde.
Ah, dégueulasse.
Ah, ça, c'est
on dirait une parodie, tu vois.
Ah ouais. Oh affreux. Non, bah, parce que c'est parce qu'elle joue une secrétaire.
Eh ouais, mais il faut arrêter, quoi.
Mais ouais, mais
donnez-lui une voix normale.
Ouais.
Je sais pas. Voilà pour elle. Colombo ressort et se dirige vers le gymnase avec son plan. Devant la petite troupe qui chante.
La fanfare.
Par contre, j'ai pas compris pourquoi, après leur parade militaire, ils partent en gueulant comme des dératés, quoi.
je sais pas, c'est le zoo.
Ils ont craqué, quoi.
C'est Vincennes.
Qu'il compare le plan et le gymnase et voit bien que les bâtiments diffèrent. Loomis arrive et annonce à Columbo que Springer est introuvable. Il prend sa voiture et se dirige vers l'école des filles pour trouver une certaine Suzy. Et là, Suzy, elle va dire « Elle est dans ce bus !» Il va suivre son bus. Enfin, un bus. C'est une camionnette avec écrit « School Bus » dessus, quoi.
Ouais, c'est bien tenté. Au moins, c'est bien tenté.
Ça, c'est un truc de pédophile. Ça c'est...
Ouais, ouais, clairement. Candy inside. Bonbon à l'intérieur.
Bon, il la trouve, il la suit jusqu'à la planque où se cache Springer. J'ai l'impression que c'est dans un bateau, mais je suis pas sûr. Tu sais, on dirait qu'il descend une cale et tout.
Ouais, un genre de truc, ouais, je sais pas trop.
Columbo arrive au moment où il dit à sa copine qu'il va se barrer parce que quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau. Et il arrive à le ramener à l'académie. Et ils s'entretiennent tous les trois avec Lyle. Springer avoue qu'il n'a pas nettoyé le canon la veille de l'accident parce qu'il n'était pas sur le campus et quelqu'un d'extérieur peut le certifier. Septième évasion, du coup. Springer est renvoyé à ses quartiers et Columbo loue l'attitude que Kyle a eue envers lui quand il a dit que l'académie se tiendra à ses côtés lorsqu'il sera accusé. Donc il a très bien compris son petit jeu, quoi. Il a fait péter un câble et puis... Donc le cas des Roy Springer, joué par Mark Wheeler, c'est le dernier dont on parlera, né en 1947. C'est marrant de voir quelqu'un d'aussi jeune et dire il est né en 1947.
C'est... Ah ouais, c'est vrai ça.
Ouais. En fait, il avait presque 30 ans.
Ouais, il les faisait pas quand même.
Ouais, c'est vrai.
Plus 25. Bon, après,
C'est pas loin.
La barrière est fine.
C'est pas loin.
Bon, tu pourrais me donner 30 ans.
Ouais, c'est vrai. Je pourrais t'en donner 19 aussi.
Non, pas du tout. Si je rase ma barbe, peut-être.
Ouais. J'ai vu une photo de toi quand t'avais 19 ans. Franchement, tu faisais 19, hein, je te jure.
Ah bah non, en 19, je faisais 14. Comment t'as vu une photo de moi quand j'avais 19 ans?
Non, je déconne, c'était une blague.
Allô.
Pédophile. Dans ma camionnette, dans mon school bus.
Dans ton school bus.
Donc, vu qu'il est tout jeune, il a joué dans des trucs plus ou moins contemporains. Apollo 13 en 1995, aux côtés de Tom Hanks et Kevin Bacon, entre autres. Horizon lointain en 92 avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Conversation secrète en 1974 avec Gene Hackman. Puis après, il y a eu surtout des séries, dont 13 épisodes de Mobile One. Pas une énorme carrière, elle était longue, mais seulement une vingtaine de rôles à son actif. Il est marié à Frances Lee McCain, qui joue Stella Baines du passé dans Retour vers le futur. Voilà. Elle joue aussi Lynn dans Les Gremlins et elle joue la juge Chapek dans Better Call Saul.
Oh, ça voilà. C'est une belle ref.
Voilà.
Better Call Saul.
C'est la femme de Mark Wheeler.
J'aime beaucoup. Donc, Columbo sort un dossier et commence à lire une description d'un gars têtu, toujours dans l'opposition et en ce sens très prévisible. Et Lyle reconnaît le dossier de Springer. Mmh. Mais non, c'est un ancien dossier, celui de William, quand il était à l'académie. Columbo trouve ça intéressant qu'il se ressemble tant et surtout qu'il soit décrit comme prévisible.
Ouais.
C'est intéressant pour l'enquête. Mmh. On prend note. Il demande ensuite qui a accès à la salle des armes. Il y a trois clés. Springer en a une, l'officier du jour aussi, et lui-même, bien sûr. Là, il donne son alibi. Il était dans sa chambre de 22h à 6h30 et c'est impossible que quiconque ait pris sa clé.
On notera que Columbo, il sait toujours pas ce que ça veut dire 22h. Il dit, oui. Ça fait quoi? Ouais, bah, ça fait 10h du soir.
Dire, ouais, c'est vrai qu'il est un peu
con. Le mec, il est flic.
C'est vrai qu'il est un peu con. Ouais, non, mais c'est... c'est dur, par contre.
Non, mais après, le truc, c'est qu'avec lui.
Il a jamais appris.
Non, mais après, tout ça, il faut le prendre avec un petit grain de sel.
Ouais.
Parce qu'en fait, il fait toujours.
Il le rend.
Il fait le bonnet, quoi.
Ouais, il joue l'idiot.
Genre, il sait pas, quoi. C'est pas possible.
Oui, c'est impossible qu'il sache pas. C'est vrai. Columbo suggère qu'il faut arrêter de chercher le coupable chez les cadets et se diriger vers les experts en armes et en explosifs. Comme Lyle, par exemple. Ça tombe bien. Il demande ensuite qui pourrait lui en vouloir. Lyle n'a aucun nom à lui donner.
Et à ce moment-là, il dit « Je prétends pas être aimé » et tu vois indubitablement de la tristesse dans ses yeux quand il le dit.
Il
a le regard un peu vacant.
Un peu abattu.
Ouais, tu vois qu'en fait, ce mec, il est aimé par personne et quelque part, ça le...
C'est un peu...
Ça le fait souffrir.
Quoi. Ouais, il aimerait bien, mais il n'y arrive pas parce
c'est
que
ça.
Ses préceptes passent avant.
Ah ouais.
Puis ensuite, il partage une petite conversation et un cigare jusqu'au moment où Lyle dit qu'un jour, il raccrochera l'uniforme s'occuper de son petit jardin.
en tout cas, j'adore cette interaction. Elle est fabuleuse, je trouve. En lui, déjà, il y a une détresse sous-jacente dans son perso.
C'est vrai.
On ressent vraiment une... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. On ressent une frustration et une solitude chez ce gars. Tu vois, genre, être colonel, c'est tout ce qu'il a, quoi. Mais j'ai le sentiment qu'il a toujours rêvé d'autre chose sans jamais se l'admettre. Quoi.
C'est vrai.
Voilà, c'est ma psychanalyse de comptoir.
Non, mais c'est bien. C'est comme ça qu'il a eu son Grammy, donc...
Non, mais vraiment, franchement, il a...
Le jeu est bon.
Ah, le jeu, il est vraiment bon. Très, très bon, quoi.
Même l'écriture du personnage est bonne.
Ouais, carrément. C'est un personnage qui a de la profondeur et ça se voit.
C'est vrai.
C'est dommage que l'épisode n'en ait pas autant, mais
dommage que l'épisode
mais
soit
vraiment il est fort.
Ouais, non, franchement, c'est pas mal. On arrive dans la cour où Colombo est là, il se retrouve pour la 50e fois de l'épisode. Parce que c'est tout ce qu'ils font en fait. Ouais, ils se séparent et puis se retrouvent, et puis se séparent et puis se retrouvent.
Rester dans la même pièce, ah, ça ouais, peut prendre une demi-heure.
Genre, en fait, franchement, asseyez-vous, faites un petit brainstorming tous les deux, discutez vos. Voilà. Et après, on rentre quoi. Colombo lui sort le plan du gymnase. Il a compris que le plan indique des rénovations et dans un des vestiaires représentés, il trouve bizarre qu'il manque des urinoirs.
Ouais. Et j'aime beaucoup ce moment parce que Colombo, il lui montre le plan. Et là, il regarde même pas le plan. Il regarde que Colombo. Colombo, il est là. Il dit, là, vous voyez, donc là, il y a ci, là, il y a ça. Et lui, il regarde que Colombo. Il sourit, il souffle un peu du nez. Il remarque l'absence d'urinoir sans jamais regarder le papier. Quoi.
Il lui regarde comme un benet.
Ouais, c'est franchement, j'adore ce moment. Mais tu vois, là, sur le moment, je me dis, là, il est en train de se dire, eh ben, il est beaucoup plus coriace que ce que je pensais au début. Quoi, tu vois. Et en tout cas, là, il dit qu'il n'a pas autorisé de rénovation et Colombo répond que William, si. Là, il répond que s'il avait proposé de changer l'académie en école, la demande aurait été formellement refusée. Colombo dit qu'il ira vérifier. Et on se retrouve en pleine nuit, tous les cadets et Colombo sont réveillés par une inspection surprise de leur piole. Ils cherchent le cidre. Colombo part se balader. Là, il ne trouve rien dans les chambres, mais fait fouiller les latrines. Moi, c'était la première fois que j'entends le mot latrine. Ouais. Donc, c'est des chiottes, mais un peu moins fonctionnelles que des toilettes normales.
Ok.
C'est genre souvent des trous dans le sol, quoi. Ouais. La trim, quoi.
Ok, ok. C'est...
Il ne trouve rien même dans les fameux conduits d'aération. Donc voilà, on comprend qu'en fait, c'est là où il planquait le cidre.
C'est ça.
Et donc la poudre par terre, ça venait de là-haut. Et...
Ça venait, ouais.
Donc Springer et d'autres cadets se retrouvent pour discuter du cidre et ils ne comprennent pas pourquoi il ne l'a pas trouvé alors qu'il l'avait laissé là à la base. Colombo arrive et leur rend la bonbonne. C'est grâce à lui qu'ils n'ont pas été pincés. Et en échange, il veut savoir exactement quand et où cette bonbonne a été entreposée. Lyle, dans sa chambre, reçoit un coup de fil de Loomis qui dit avoir trouvé le cidre et de le rejoindre au canon. Là, j'aime bien quand la séquence elle commence, avant que le téléphone sonne, on voit Lyle en uniforme sur son lit qui regarde le plafond.
Il est déjà dead inside,
ouais,
il est vide.
Ouais.
Il sait que ça
mais
se
fait. Mais c'est le petit truc qui fait que...
En fait, dans sa vie, il ne sait rien faire d'autre que ce qu'il fait.
C'est ça. Il n'est pas bien, tu vois, il n'est pas bien dans sa vie.
Ouais, c'est trop dur.
Et une fois sur place, il lui montre la bonbonne accrochée à une fenêtre. Loomis court appréhender le coupable. Colombo rejoint Lyle au canon et celui-ci lui montre la fenêtre en question. Colombo comprend que c'est de cette façon qu'il a été au courant pour le cidre. Il l'a vu auparavant.
Il s'est spoilé.
Yes.
Il s'est spoilé la fin.
Et Colombo lui demande quand. La semaine dernière, jeudi ou vendredi, quand il faisait jour, il lui dit. Mais Colombo sait que le cidre n'a jamais été accroché à la fenêtre pendant la journée. Ça devait être mercredi ou jeudi, suggère Lyle. Mais la première fois où le cidre a été accroché, c'était samedi soir, la veille du meurtre.
Sur parole des soldats.
Oui, exactement. Et en tout cas, on va écouter un clip pour la fin de la conversation.
Écoutons.
Nous l'avez donc vu après 6h30, quand vous vous êtes levé, ou beaucoup plus tôt, avant de vous mettre au lit.
Ou l'un ou l'autre. C'est l'évidence même.
Lequel d'entre vous, messieurs, a rentré le cidre dimanche matin ?
Moi, lieutenant.
À quelle heure?
À 6h25.
Êtes-vous sûr qu'il était 6h25?
Il fallait le rentrer avant la sonnerie du réveil, sinon tout le monde l'aurait vu.
Vous ne l'avez pas vu après vous être levé parce qu'il était rentré. Et vous ne l'avez pas vu avant parce qu'il faisait trop noir. Je vais vous dire quand vous l'avez vu. Ça ne peut être qu'entre 6h15 et 6h25, au cours de ces 10 minutes. Pas une minute avant, ni une minute après. Avant 6h15, il faisait trop nuit. L'aube ne se lève pas avant 6h15 et c'est à cette heure-là que la bouteille est devenue visible. Elle est restée visible jusqu'à 6h25 quand Springer l'a rentrée. Et non seulement vous l'avez vue à cette heure bien précise, mais vous deviez également vous tenir à un endroit bien précis.
Et cet endroit bien précis, c'est le canon, comme on a vu au tout début de l'épisode.
Parce que partout ailleurs, la fenêtre est cachée par les arbres.
C'est impossible de voir la fenêtre.
Impossible.
Impossible. C'est pas possible.
Et donc là, il confesse.
Donc voilà. Donc,
on dira ce qu'on pense du reveal au moment de la note.
Allez, on va dire ça alors.
Allez.
On va dire ça.
Donc fin de l'épisode et c'est parti pour les notes.
Allons-y gaiement. Peut-être pas trop, mais.
Alors pour cet épisode 3 de la saison 4. Entre le crépuscule et l'aube, allons-y pour la qualité de l'intrigue.
C'est un 4.
C'est un 4. C'est un 6 pour moi.
Ok, bon.
Ouais, alors j'ai noté, c'est pas envoûtant comme plot.
Ouais, non, c'est...
Mais il y a quelques bons indices. La force de la détonation, j'aime bien. Ouais, Springer qui reconnaît le torchon instantanément et que Columbo remarque ça. Lui, ouais. J'ai bien aimé ça.
Sinon, c'est un peu très vide.
Ouais, un peu. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'une heure et demie pour ça.
Non, je pense pas. Pour le 4, bon, c'est un... en vrai, c'est un peu explicable.
Oui.
Il y a 2-3 trucs, mais voilà. C'est un 4 un peu, voilà.
Performance du meurtrier.
Je t'écoute.
9.
8, mais on, je okay. pense qu'on sera raccord.
Ah, pas mal.
Il est bon.
Je pensais pas que t'allais mettre autant.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est la seule bonne note.
Bon, moi, en tout cas, je déroge un petit peu à la règle que je m'étais faite.
Ouais.
Parce que c'est pas forcément le tueur
le plus mémorable.
Dont je me rappelle le plus, mais il y a deux choses qui me font mettre un 9. Déjà, il y a la profondeur du personnage, qui est assez rare, je trouve. On voit un gars, c'est un rock, mais avec un cœur triste, quoi.
Ouais.
Il s'est acculé tout seul dans une vie où il est seul, et il s'investit de sa mission militaire pour remplir le grand vide qu'il y a en lui. Il s'y accroche dur, il passe sûrement ses nuits à se convaincre que son rôle prime sur son bonheur. Et sa solitude, je trouve qu'elle se voit énormément dans la scène où il offre un cigare à Columbo, justement.
C'est vrai.
Et avant ça, on le voit qui hésite, pour le cigare, il hésite, ouais, il semble gêné. On voit quelqu'un qui a plus l'habitude, tu vois, de ce côté social.
De rapport, ouais. Non, ouais.
Et puis autour de ce cigare, il se confie un peu à Columbo. Et tu sais, quand il lui dit bientôt, je vais raccrocher le.
Ouais, mais il a trouvé son premier ami. Ouais, c'est vrai. Depuis 20 ans.
Ouais.
Sauf que c'est pas vraiment son ami, mais c'est le premier truc qui s'apparente à quelqu'un de jovial avec lui. Enfin, de. Même pas tant que ça, mais juste quelqu'un qui lui parle, en fait.
Ouais, voilà. Dès qu'il y a quelqu'un qui lui parle et qui a.
Oh, c'est maintenant.
Ouais. Et ben, il.
Et c'est raté.
Il se confesse un peu, quoi. Et après toutes ces scènes là où on voit un peu le petit garçon en lui qui cherche l'échappatoire, on passe à des scènes où il conduit des marches, il cherche du cidre, il est impitoyable, tu vois, donc il passe à l'un à l'autre, donc il porte toujours un masque, en fait.
C'est vrai.
Il le porte bien. Mais au fond, il en a marre de jouer un rôle, et que ce soit palpable au visionnage, je trouve que McGowan, il fait un boulot extraordinaire. Et c'est la deuxième raison de ma note. Son jeu, il est vraiment, vraiment excellent. Il exprime tellement de choses que, de par son regard, il donne cette vraie profondeur au personnage. Alors,
il est très fort.
Alors, il n'est pas drôle.
Non, il n'est pas drôle du tout, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche, en vrai.
Ouais.
On sait bien aussi qu'il y a des épisodes un peu différents. Bah, comme je dis souvent, j'aime bien moi un peu les épisodes qui sortent un peu du lot, parce que du coup, ça rajoute un truc de se dire, putain, qu'est-ce qui va se passer là ? Parce que c'est pas la trame de...
habituelle.
Ouais, de vivre l'épisode pareil. Du coup, c'est cool, j'aime bien.
Ouais.
Mais c'est un peu le risque. C'est que soit ça plaira énormément, et il y a sûrement des gens qui doivent kiffer parce que... c'est un peu plus dark.
Ouais, c'est très sombre, hein. Très terne. Déjà, tout l'épisode, il est très terne. Quoi. Il y a très peu de couleurs.
Mais en même temps, ça, c'est le risque de ça ne plaise pas, ou que ça soit lent, c'est ou mou, ou ce genre de truc.
Ouais.
En tout cas, lui, heureusement qu'on le reverra, du coup, parce que je pense qu'il a du potentiel
qui n'est
pas du tout exploité, là.
En tout cas, j'ai noté, il n'est pas charismatique comme le Man, il n'est pas charmant comme Carcini, mais il est multifacette. Et il a cette vulnérabilité qui raconte une vraie histoire.
Et il joue bien, en fait, au final. Donc, ça rentre dans sa perf.
Des fois, tu as l'impression qu'il a vraiment les larmes aux yeux, tu vois. Et dans la séquence d'après, de nouveau un militaire, tu vois qu'il est tiraillé, quoi.
C'est clair.
Et j'adore, c'est un personnage profond et c'est rare pour le tueur, je trouve.
C'est clair.
Alors, la dynamique entre Columbo et le meurtrier.
La dynamique, je viens de changer à l'instant, j'avais mis 5 et j'ai mis 6, parce qu'en vrai, c'est un peu mieux que prévu.
Ouais, ok, moi j'ai mis 7.
Ouais, bon, on pense qu'on va se rejoindre.
Ouais, après, Columbo, le truc, c'est qu'il le titille pas tant que ça, au final.
Parce qu'en fait, il a pas besoin, parce qu'en fait, il est tellement froid que je pense qu'il aurait titillé, ça aurait rien fait.
Ouais.
Mais du coup, ils ont cette scène, la scène de copinerie. Ils ont la scène de machin.
J'aime bien la scène de la cantine aussi.
Ouais, voilà.
Il le saoule et tout, c'est sympa.
C'est marrant. Et puis même, ce jeu, comme tu disais tout à l'heure, le jeu du regard en mode allez, si je te le donne, tu me le dis.
Ouais, voilà.
C'est pas mal.
Il y a vraiment un petit jeu.
Il y a un petit truc. Ils auraient vraiment pu pousser le truc plus loin.
Ouais.
Mais c'est pas mal.
Le reveal.
1, 2, 3. Soleil. 3.
3
pour ma part.
Ok. Moi, j'ai 5.
Ouais, toi tu mettras jamais en toutes 5.
Je mets rarement en toutes 5, mais après, voilà, l'indice final il est pas ouf.
Mais... ouais.
Ça tient côté, déjà, tu l'as dit, ça tient côté Monage de Springer.
C'est ouais. C'est,
si, qui donne les horaires de fermentation, mais à 25 ou
32. Ouais, voilà, c'est ça. Puis voilà, quoi, une heure c'est une heure, quoi.
Ouais.
Et puis.
Et puis ça, après, ça suppose aussi que la bonbonne elle est visible que de ce spot-là, ce qui est pratiquement impossible. S'il passait sous la fenêtre, il doit y avoir d'autres endroits. Ouais. Est-ce qu'il est allé partout pour...
Et puis même, pour la bonbonne, il aurait juste pu savoir, genre des bruits de couloir. Mm. Ah, putain, t'as fait passer la bonbonne cette nuit, c'est qui la garde ? Tu vois ?
Ouais.
Y a trop de manières qu'une info comme ça fuite. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça aurait forcément fuité, enfin, ça aurait forcément pu fuiter et ça aurait été pas la seule raison. Donc voilà.
Après, je comprends bien le principe, quoi.
Je pense
que leur idée de base, c'était ça, quoi. Il faut que le meurtrier témoigne de quelque chose pendant la préparation du meurtre qu'il n'aurait pas pu voir ailleurs, ouais, voilà. À un autre moment dans le temps et à un autre endroit dans l'espace.
Ouais, c'est pas facile à planifier au niveau de l'épisode pour eux.
Ouais.
Un truc comme
ils sont partis de ça et après ils ont dû broder l'histoire autour.
Ouais, ouais, carrément.
Il fallait que ce soit dans un truc militaire pour que.
Pour qu'il
l'histoire de la bonbonne et tout ça, qui s'est interdit. Voilà. Mais,
Ouais, mais malheureusement, c'est un échec. Hein.
J'allais mettre 4, mais j'ai mis plus 1 pour la confession de Lyle qui est, je trouve, émouvante à la fin. Et Columbo qui le laisse donner des derniers ordres avant de partir, quoi. Donc c'est sympa.
C'est pas trop mal, ouais.
Et l'ambiance de l'épisode ?
1, 2, 3, soleil. 3, encore.
Ok, moi j'ai mis 4.
Ouais, y a rien, c'est bof, vide, quoi. C'est plat.
Comme on a dit, c'est terne déjà.
Ouais, ils ont fait l'effort d'avoir des figurants. Note, parce que d'habitude, moi, c'est un peu mon point de cœur, tu vois. Genre, j'aime bien quand il y a du monde ou des beaux endroits ou... De la variété. Bon, là, la variété, on va passer.
Ouais.
Mais tu m'avais prévu dans l'épisode dernier. Tu m'avais dit, mais je suis pas fermé à l'idée, mais c'est pas bien fait, là. Enfin, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, je pense.
C'est clair. Mais, ouais, c'est un parti pris, quoi. Mais,
C'est... Enfin, moi, après, je pense que c'est pas ma cam de base.
Ouais.
Mais que là, en plus, ça aurait pu être mieux fait.
J'aurais pu mettre 3, hein, mais les militaires qui courent comme des pingouins.
Oui, mais en fait, voilà, ça, il y a des petits trucs qui font que, tu vois. Sinon, moi sans certains petits trucs comme ça, tu vois, j'aurais mis un solide 1. Mm. Et voilà, ça aurait été
après fini. Voilà, c'est un des seuls épisodes qui a pas de musique, quoi.
Ouais, mais là c'est dur
que militaire, quoi.
Non, mais c'est dommage quand même.
Non, c'est
parce que ça aurait mérité une musique un peu militarisée, tu vois, mais un truc à base de trompette mais mélodieux qui s'écoute un peu, tu vois, parce que on fait
des mais bon après ça aurait peut-être pas aidé tant que ça, hein, mais bon,
ça aurait pas aidé, je pense.
Donc ton total
24.
Ouf, ça fait mal, ça.
Ouais, celui-là il est bas.
Ah, je suis à 31.
Moins pire.
Mais il est 21e de mon classement quand même, donc c'est vraiment en bas. Quoi.
Ouais, c'est en bas du bas, mais moi, on est l'avant-dernier. Toi. Hein.
Ouais, voilà.
On est l'avant-dernier. Là.
C'est fou, hein. Pourtant, ouais. T'as mis vraiment une bonne note
au
protagoniste.
Il y a deux notes qui sont pas ok, parce que j'ai quand même un 6. Ouais. Mais bon, 4-3-3, ça pardonne pas.
Ouais. Bon, très bien, on l'a fait cet épisode.
Ben, hein? on espère que vous aurez kiffé la petite blague au début. Vous avez bien aimé. C'était pour mettre dans l'ambiance un petit peu au final. Moi j'en retiens de cet épisode, c'est que malgré cette vanne au début de l'épisode nul et qu'on essaie d'esquiver au maximum, on a quand même rigolé, franchement.
Et sache qu'il y aura pire que cet épisode.
Et sachez qu'il y aura pire que cet épisode. Parce qu'en fait, c'est à vous qu'on parle, parce que moi, tant pis, c'est trop tard, j'ai signé. Mais vous partez tant qu'il est encore temps. Non, je rigole, bien sûr, partez de votre ordinateur pour aller écrire un message sur Facebook.
Oui, wow,
Instagram et tout. Et puis...
Bravo, très belle transition.
Non, il n'y a pas de souci. YouTubeur, moi. Hein. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube.
Et allez sur YouTube. Ben, abonnez-vous, petite cloche bleue, c'est ça qu'il faut dire.
Je sais pas.
Les partages, pouces, c'est des pouces là-bas.
De toute façon, c'est clap. Commentez, likez, abonnez, partagez.
Bah voilà, tu viens de m'apprendre un truc.
Avec plaisir, c'est la méthode clap. Voilà. Non, ça se met vraiment comme ça.
Ok, ben,
la méthode clap.
Donc la semaine prochaine, on revient pour l'épisode 4 de la saison 4. Et au trouble.
Au trouble.
Nombre de lieux.
Bah, 1. Et vous allez être troublés en plus. Parce que.
On sera accompagné d'un invité.
Mais non.
On l'annonce direct.
On l'annonce ?
On l'annonce.
Qui est-il ? Je t'écoute.
On n'annonce pas qui.
Allez, on n'annonce pas, Vous allez être troublés. Mais je peux vous dire que vous allez adorer.
Comme merde.
Non, vous allez peut-être détester comme nous, quoi. Mais il y a un lieu. Mais sachez que je pense qu'il sera mieux que celui-là.
Très bien.
Merci encore d'écouter. Merci de votre présence, de vos messages. On lit toujours tout. Ça bouge pas.
Et voilà. À la semaine prochaine alors.
Salut.
Ciao.